Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès et aujourd'hui avec Marc Bisset aux manettes techniques de cette émission. Et à la une, vous l'avez entendu, on en parlait juste avant les informations nos amis Parisot et Robière, bien sûr, comme d'habitude. C'est une affaire qui s'est déroulée en 1933, février 1933, deux domestiques, deux employés de maison massacrent leur patronne et sa fille qui a 21 ans. C'est ce qu'on appellera très vite l'affaire des sœurs Papin, une affaire qui a intéressé à l'époque un des plus célèbres psychanalystes, enfin celui qui deviendra plus tard un des plus célèbres psychanalystes français, Jacques Lacan, qui voyait un exemple spectaculaire de délire à deux, mais c'est une affaire qui divise encore, on en parlera, les psychiatres aujourd'hui. L'affaire a inspiré également des pièces de théâtre, des romans, des films. Inutile de vous dire que sur place, au Mans, la ville où s'est déroulé le drame, l'empreinte de ce fait divers est toujours très très présente. Et les auditeurs de l'heure du crime, d'ailleurs, nous demandent régulièrement sur RTL.fr de programmer une émission sur cette affaire. Ben voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai choisi un des meilleurs connaisseurs du dossier qui est mon invité, donc Frédéric Chauveau. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et vous avez écrit un livre passionnant sur cette affaire, L'effroyable crime des sœurs Papin, publié aux éditions Larousse. Et ce que je voudrais, Frédéric Chauveau, avant d'entrer dans les détails de l'histoire et de vraiment raconter les coulisses que vous faites dans votre livre, c'est de montrer qu'il peut y avoir une approche purement, effectivement, historique, vous êtes historien, mais une autre approche aussi de ce fait divers.
Oui, je crois qu'il y a plusieurs approches. Quand on est face à ce genre de dossier, de situation ou de crime, il est préférable de croiser en fait les approches, de multiplier les regards. Alors, il y a le travail de l'historien ou d'historienne classique, mais il faut aussi donc avoir recours aussi à des approches psychologiques avec les limites qui sont celles évidemment des non-spécialistes. Mais il faut également donc puiser dans la littérature, puisque cette affaire a eu évidemment donc un retentissement, comme vous signalez tout à l'heure, considérable, pas simplement en France, mais très tôt, dès deux jours après, en Europe et également au-delà de l'Atlantique, aux États-Unis. Oui. Donc, nécessité de croiser les regards pour essayer d'approcher la vérité du crime.
Ah oui, voilà, parce que c'est la question du mobile, c'est la question de la folie, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est un mélange, peut-être, de tout cela dans une sorte de cocktail qui explose le jour où a lieu le drame? Je voudrais dire aussi que tout à l'heure, on ira faire un petit détour par la ville du Mans avec un autre invité de l'heure du crime qui nous joindra tout à l'heure par téléphone. Il s'appelle Olivier Morezin. Il est journaliste indépendant et il a été le rédacteur en chef d'un hors-série dont on a parlé dans cette émission, un hors-série du journal Le Maine Libre, un hors-série fait divers sur 18 affaires criminelles qui ont bouleversé la Sarthe, et évidemment l'affaire des sœurs Papin y tenait une place assez grande. Et avec Olivier Morezin, nous allons parler de cette empreinte, mais Olivier Morezin a eu la bonne idée de se rendre, je crois, tout récemment rue La Bruyère, au Mans, c'est-à-dire à l'adresse où se trouvait la maison du drame, et il y a rencontré les habitants d'aujourd'hui. Donc ça sera intéressant d'avoir ce coup de fil tout à l'heure. Avant d'aller plus loin avec vous, Frédéric Chauveau, il faut rappeler pour ceux qui ne se souviendraient pas très bien de l'affaire, les circonstances dans lesquelles le drame a éclaté. Avril 1926, place de la préfecture, au Mans, Léonie Lancelin, 56 ans, son mari, l'avoué honoraire René Lancelin, et leur fille Geneviève, 21 ans, vivent sous le même toit dans une maison bourgeoise qu'ils louent à un médecin de la ville qui s'appelle le docteur Louis Chartier. À cette époque, Madame Lancelin décide de renouveler son personnel domestique et elle va engager, à quelques semaines de distance, une cuisinière tout d'abord, Christine Papin, 21 ans, et puis une femme de chambre qui n'est autre que la sœur de Christine Papin, Léa, qui a tout juste 15 ans. Alors, autre précision, les règles de la maison sont assez strictes. Les domestiques, ils l'apprennent en arrivant, ne doivent jamais adresser la parole qu'à leur patronne, pas aux autres membres de la famille. À part ça, elles sont plutôt bien traitées pour l'époque, un salaire de 2 à 300 francs par mois, 2 heures de liberté par jour entre le service des repas et le ménage. Leur jour de congé, c'est le dimanche, où elles disposent de leur après-midi jusqu'à 18h30. Madame Lancelin est assez tatillonne également. Elle fait régulièrement des inspections de propreté et le moindre grain de poussière attire des rappels à l'ordre sévères. Par exemple, en 1928, alors que Léa vient de terminer le ménage du salon, Madame aperçoit un bout de papier oublié sur le tapis. Léa, elle, ne l'a pas remarqué. Léonie Lancelin s'approche d'elle et d'un geste vif, elle pince l'épaule de la bonne jusqu'à lui faire mettre un genou en terre pour qu'elle ramasse le papier. Nous sommes maintenant fin août 1931. Les Lancelin sont en vacances et les sœurs Papin entretiennent la maison en l'absence de leur patron. Et c'est alors que le maire de la ville, Arsène Lefeuvre, voit entrer un jour dans son cabinet les deux jeunes femmes qu'il ne connaît pas et qui ont insisté pour le rencontrer de toute urgence. Elles semblent tellement excitées, bouleversées, inquiétantes pour tout dire, que par prudence, il fait venir son secrétaire général qui assiste à l'entretien. Et c'est Christine qui parle. Ses propos sont toujours approuvés de la tête par Léa. Des propos incohérents dont il ressort qu'elles se sentent persécutées par la famille Lancelin, qu'elles accusent également de les séquestrer. Quant à lui, le maire, elle lui reproche de leur nuire au lieu de les protéger. Arsène Lefeuvre, inquiet, prévient le commissaire central de la police du Mans à qui les deux sœurs Papin répètent ce qu'elles ont dit au maire avec les mêmes propos décousus et au retour de vacances des Lancelin, le commissaire décide d'avertir l'avoué de l'incident et il ajoute, je cite, « Si je puis me permettre, monsieur Lancelin, j'aurai des domestiques de ce genre, je ne les garderai pas longtemps. » Mais les Lancelin passent l'éponge, ils gardent les deux sœurs qu'ils considèrent comme deux perles à leur service et la vie reprend son cours, rythmé par un emploi du temps immuable. Monsieur Lancelin part de chez lui chaque jour vers 14h30, il revient prendre son thé préparé par l'une des deux sœurs vers 16h, puis il repart vers 17h, direction son cercle dont il revient à 19h. Léonie et Geneviève, elles, de leur côté, sortent faire des courses ou partent se promener dans la ville vers 16h30. Elles reviennent en général aux alentours de 18h30. Et tous les 8 jours, la famille Lancelin dîne dehors chez le beau-frère de René, qui est avocat, ou alors chez son frère Raoul. Le 2 février 1933 est un jeudi. La matinée est déjà bien avancée lorsque Léa Papin décide d'apporter son fer à repasser électrique à réparer dans un magasin spécialisé car le fil est coupé à la sortie de la prise. Or cet après-midi-là, elle doit absolument terminer une pile de linge qui s'entasse dans une pièce du premier étage. L'employé du magasin lui assure que le fer sera prêt aux alentours de 15h. Le repas de midi se déroule comme de coutume, dans la salle à manger. Sur les coups de 14h, monsieur part à son cercle. Ces dames quittent la maison vers 15h30. Elles seront de retour en fin d'après-midi. Dès le départ de ses patronnes, Léa file chercher son fer et elle regagne tout de suite la maison. Elle donne le fer réparé à sa sœur et puis elle s'occupe de nettoyer le salon en vue d'une réception qui doit avoir lieu le lendemain. Soudain, une étincelle jaillit. L'éclairage s'éteint dans la pièce où Christine vient de brancher le fer à repasser. Court-circuit. Les deux sœurs disposent alors une bougie dans une coupelle et elle commence à ranger le linge qui ne pourra donc pas être repassé lorsque on entend des bruits en bas. Il est 18h30, Léonie et sa fille viennent de rentrer de leur course. Tous les volets de la maison sont fermés, elles actionnent l'interrupteur, pas de lumière, alors elles appellent. Christine, Léa, que se passe-t-il? Pourquoi la maison est-elle dans le noir? Christine est à l'étage, une bougie à la main. Du haut de l'escalier, elle répond « Les plombs ont sauté, madame, c'est le fer à repasser qui est détraqué. » Léonie et Geneviève arrivent alors sur le palier. Léonie semble furieuse, elle jette un regard mauvais à la bonne et elle dit « Encore ?» Ce sera sa dernière parole. Il est maintenant 19h en ce 2 février 1933. René Lancelin arrive devant chez lui, il veut entrer mais la porte est fermée de l'intérieur, alors il secoue la poignée, il appelle, il frappe de grands coups avec sa canne, pas de réponse. En désespoir de cause, il appelle le commissaire Dupuis qu'il connaît bien, il est 20h, il lui explique qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Est-ce que le commissaire peut faire quelque chose? Celui-ci arrive quelques minutes plus tard avec deux agents, l'un d'entre eux pénètre dans le jardin mitoyen, brise une fenêtre à l'arrière de la maison, il entre, il monte l'escalier du premier étage et là, il découvre une scène de cauchemar. Dans le faisceau de sa lampe électrique, il découvre d'abord un œil humain sur une marche. Sur le palier, les corps de Léonie et de Geneviève tombés tête bêche baignent dans leur sang, les murs, les portes, les tableaux sont aussi éclaboussés de sang, les victimes sont méconnaissables, leurs visages sont en bouillie, les orbites de leurs yeux, des trous béants. L'assassin est-il encore dans la maison? La porte de la chambre que partagent Christine et Léa est également fermée de l'intérieur. On appelle, pas de réponse. Alors on enfonce la porte de la chambre. Christine et Léa sont là, vêtues d'un simple peignoir sous lequel elles sont nues. Elles sont sur leur lit, étroitement enlacées dans les bras l'une de l'autre. « Qu'avez-vous fait à vos maîtresses ?» demande l'agent qui pénètre dans la chambre. C'est Christine qui répond. « Elles ont voulu me frapper. Je me suis vengé. On vous attendait. » Voilà donc cette extraordinaire histoire qui s'est déroulée en 2, 3 février 1933, au Mans, dans cette maison de la rue La Bruyère. On retrouve, pour vous en dire plus, mon invité Frédéric Chauveau, dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire des sœurs Papin à la une de notre émission et maintenant on va donner la parole à mon invité Frédéric Chauveau qui dans son livre paru aux éditions Larousse, l'effroyable crime des sœurs Papin raconte évidemment par le menu tout ce qu'il a pu recueillir comme documents historiques. Donc là on n'est pas dans le fantasme mais dans l'invention journalistique parce que malheureusement à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça il y a aussi beaucoup de gens qui brodent, mais là l'affaire Frédéric Chauveau est suffisamment extraordinaire en elle-même pour qu'on ne fasse pas appel à l'imagination. Et puis vous posez évidemment, comme je disais tout à l'heure dans ce livre, les questions, vous essayez de répondre aux questions que tout le monde se pose sur la folie, sur le mobile, sur les raisons de tout ça, sur la psychologie des personnages et sur l'époque également dans laquelle ce crime a eu lieu. Est-ce qu'on peut là, maintenant qu'on a tout fraîchement en tête ce qui s'est passé ce fameux jour de février 33, continuer avec vous finalement le récit, c'est-à-dire... Évidemment, elle ne tente pas de fuir. Je vous attends, on vous attendait. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après?
Dès que la porte est ouverte, c'est le spectacle des deux sœurs qui se présentent donc aux policiers. Elles sont donc toutes les deux dans le même lit, mais elles sont en robe de chambre. Mmh. On aperçoit donc au pied du radiateur une sorte d'amoncellement qui sont donc une partie des linges ensanglantés qui n'ont pas été nettoyés, qui ont été déposés. On observe aussi le marteau, qui est une des trois armes du crime, qui est posé donc directement dans la chambre, qui sera d'ailleurs l'objet d'une controverse pour savoir exactement où ce marteau était-il, parce que ça change toute la configuration de l'affaire. C'est-à-dire que si le marteau était à son emplacement usuel, ça veut dire à ce moment-là que le crime était prémédité, parce qu'il y avait deux marteaux dans la maison. Mais si jamais donc le marteau avait été déplacé pendant la journée ou la veille ou pendant la semaine, à ce moment-là, ça veut dire que le crime était spontané. Voilà, ça c'est un des éléments donc
très parmi d'autres. Il y avait, vous parlez de trois armes du crime, il y a un pot en étain, je crois, que les constatations des policiers vont retrouver, et on les emmène donc au comité. commissariat. Alors, au commissariat, elles vont subir un interrogatoire, mais il y a déjà le monsieur Herbert, le juge d'instruction, le procureur de la République qui est venu, le docteur Chartier, le médecin légiste, et puis le commissaire central, évidemment, et un greffier du tribunal. Donc, c'est tout de suite un interrogatoire, mais c'est Christine qui parle.
Oui, c'est Christine qui parle, elle monopolise la parole. Alors, il est vrai que plus tard, quand on fera des expertises mentales sur les deux sœurs, on considérera que Christine est celle qui est la plus intelligente, qui a un rapport aussi avec le langage, avec les mots, beaucoup plus facile. Bon, sa sœur, évidemment, a quelques difficultés, donc parfois faire une déposition qui pourrait faire une dizaine de lignes. Mais Christine, à vous. Elle dit oui, c'est nous qui avons tué nos deux patronnes. Mais d'emblée, il y a une ambiguïté, puisqu'on ne connaît pas, dès le premier jour, quelle est la vraie part de responsabilité entre les deux sœurs. Et dès ce premier jour, il y a toutes les hypothèses qui sont échafaudées. Autrement dit, est-ce que c'est Christine seule qui a tué les deux patronnes et Léa, par solidarité avec sa propre sœur, accepte d'endosser cette responsabilité? Est-ce qu'il y a une part égale? Donc d'emblée, le premier soir au commissariat, un certain nombre d'éléments. Alors, pour Christine, elle le dit aussi, elle a à un moment donné cette phrase ou cette tournure, je ne leur en voulais pas, je n'étais pas malheureuse et je n'avais aucun grief contre ces dames.
Mais elle dit aussi, je n'ai aucun regret. Autrement dit, je ne peux pas vous dire non plus si j'en ai pas. Donc c'est quand même assez contradictoire. Et elle ajoute, j'aime mieux avoir la peau de mes patronnes plutôt que ce soit elle qui est la mienne ou celle de ma sœur. Et elle précise, je n'ai pas prémédité mon crime, je n'avais pas de haine envers elle, mais je n'admets pas le geste qu'a eu ce soir-là Madame Lancelin, mon égard. C'est quoi ce geste?
Ce geste, alors là aussi, ça fait partie des énigmes du procès. C'est-à-dire que d'emblée, Christine, en disant ça, va alimenter la thèse du crime réactif. Autrement dit, ce n'est pas elle qui a pris l'initiative. Elle a réagi en dépassant donc très largement donc les normes usuelles. Mais du coup, c'est pas elle qui est à l'initiative. D'accord. Alors, ce geste, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans la présentation. C'est un renvoi à cet épisode particulier où Madame Lancelin Eugénie aurait pincé donc le bras pour pouvoir ramasser cette boulette qui aurait été mise à terre. Mais là aussi, c'est un épisode qui n'est pas confirmé. Il y a une seule version. Il n'y a pas d'autres témoignages. Et donc, sur la personnalité même de Madame Lancelin, qui reste aussi une grande énigme, il n'y a pas d'éclairage particulier. Parce que, on pourrait ajouter aussi, c'est l'épisode de la mairie, vous l'avez très bien restitué, mais les autres témoignages disent que c'est aussi les personnes comme ça qui sont simples, alors je reprends avec les guillemets les expressions de l'époque, qui ont du mal à construire une argumentation, donc un récit cohérent. Oui. Et dès qu'elles se sentent mises en défaut, à ce moment-là, donc elles ne savent pas quoi dire, elles exagèrent leurs propos et ça semble tout à fait incohérent pour des oreilles qui sont évidemment pas dans leur cercle.
Voilà, et puis évidemment tout le monde est frappé par la brutalité, la violence du crime, l'affaire de l'œil, on va y revenir ensemble parce que Léa, je crois que c'est Léa hein, qui a énucléé la patronne sans instrument, c'est-à-dire avec ses doigts. Et ça, c'est évidemment, tout le monde a essayé de comprendre pourquoi il y avait eu ce déchaînement de sauvagerie. On comprend mieux que l'affaire ait fait la une de la presse, à la fois au Mans, bien sûr, en France et ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, dans un petit instant, nous allons nous diriger vers le Mans pour prendre des nouvelles des occupants actuels de la maison.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
L'affaire des sœurs Papin, on en parle avec mon invité Frédéric Chauveau, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, qui a publié aux éditions Larousse un des livres les plus complets sur le sujet. Pour tous ceux que ça passionne, je renvoie vraiment tout le monde à ce livre, L'effroyable crime des sœurs Papin. On va revenir avec Frédéric Chauveau sur l'instruction, sur les contradictions des deux sœurs, sur les hypothèses qui ont été échafaudées, sur les batailles d'experts, sur le procès ensuite qui a été très suivi. Les assises de la Sarthe étaient protégées ce jour-là, on y reviendra tout à l'heure, par 200 policiers. Bon, c'est dire l'émotion et la haine qui tournaient autour de ces deux jeunes femmes. Avant de revenir à tous ces sujets-là, on va donc au Mans et nous allons donc maintenant nous interroger sur l'impact de ce fait divers absolument terrible. il y a eu, il y a quelques semaines, une émission spéciale que nous avions proposée après la publication d'un hors-série du Maine Libre, Faits divers, 18 affaires criminelles qui ont bouleversé la Sarthe. Et le rédacteur en chef de ce hors-série, c'est Olivier Morezin, à qui j'ai demandé d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Olivier Morezin.
Bonjour Jacques.
Alors dans votre hors-série, bien sûr, vous laissiez une place importante à cette affaire, on comprend pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'empreinte purement régionale ou dans la ville du Mans de cette affaire? Elle est encore palpable aujourd'hui?
Tous les Manceaux et plus généralement tous les Sartois connaissent l'affaire des sœurs Papin et vous leur en parlez et tout le monde a ça en tête. Bon, il y a quand même 80 ans qui s'est déroulé depuis.
Oui, bien sûr.
Pour autant, il y a eu le tournage du film de Jean-Pierre Denis il y a quelques années, Les Blessures Assassines, qui est consacré à l'affaire. Mmh. Et puis. Je parlais avec la maîtresse de maison du 6 rue de la Bruyère et ces jours-ci qui me disait qu'il y a encore des gens qui viennent et qui photographient la maison où ils habitent, où elle habite avec son mari et ses enfants.
Voilà, elle vous a bien reçu quand même, elle n'était pas agacée.
Non, elle m'a dit qu'on qu'on leur parlait souvent de cette affaire, bien entendu. Elle connaissait elle-même l'histoire. Oui. Mais voilà, pour elle comme pour son mari et ses enfants, c'est une maison comme les autres.
Bien sûr, puis c'est pas les propriétaires. Il y a eu plusieurs propriétaires, j'imagine, depuis l'époque. Voilà. Donc,
ils y vivent depuis 12 ans maintenant.
Enfin voilà, bon, la maison n'est pas hantée, quoi.
Non, pas du tout.
Vous avez des réactions justement à la publication de ces histoires, parce que je faisais référence à ce hors-série du Maine Libre.
Le hors-série marche très bien et continue à être vendu dans la Sarthe. C'est vrai que votre émission a eu un gros impact pour le faire connaître et je vous en remercie. Et des 18 affaires criminelles dont je parle, bien sûr l'affaire des sœurs Papin est la première, mais aujourd'hui il y a des affaires emblématiques du crime en Sarthe, si j'ose dire, comme l'affaire Le Prince,
qui sont
supplantées dans l'esprit des gens.
En tout cas, je vous remercie beaucoup Olivier Morezin et aussi de nous avoir donné des nouvelles des actuels habitants de la maison. Bon, on peut dire à ceux qui nous jouent que allez pas les déranger, si vous voulez faire une photo de la maison, allez-y, mais ne vous suspendez pas la sonnette, ils en ont peut-être un peu assez. Merci beaucoup Olivier Morezin.
Merci Jacques.
Alors, on va revenir ensemble Frédéric Chauveau sur le déroulé de l'affaire à l'époque dans un instant, après une courte pause. Alors maintenant, toutes les questions qu'on se pose encore aujourd'hui, mais qu'on s'est surtout posées à l'époque avec Frédéric Chauveau, évidemment, il y a une expertise médico-légale, hein, c'est le terme employé. Il faut dire qu'on est en 1933, la psychiatrie, elle existe. D'ailleurs, on dira un mot tout à l'heure, Jacques Lacan a écrit un article sur cette affaire, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe au niveau, justement, des expertises psychiatriques de ces deux jeunes femmes?
Alors, tout d'abord, le premier dossier qui est livré au public, c'est le rapport, si je puis dire, des blessures physiques.
Oui.
Voilà, parce que c'est le docteur Chartier qui en est l'auteur. Mm-hmm. C'est un légiste, disons, plutôt modeste, qui a aucune envie d'être projeté sur les feux de l'actualité devant la scène. Et donc, du coup, il met presque 3 mois donc pour rédiger son rapport en disant que ça va vraiment servir peut-être pour compléter éventuellement les expertises de psychiatrie par la suite.
Avec disons-le maintenant, parce que sinon on le dira plus jamais, mais je le dis pas par goût. Spécialement par complaisance par rapport à la violence, mais il y a quelque chose qui a étonné le docteur Chartier, c'est que les victimes avaient des blessures d'une autre nature qu'au moment vraiment de l'agression qui avait été faite au couteau et qui, pour aller vite et pour rester un peu pudique là-dessus, elles avaient subi un traitement que, en général, la cuisinière faisait subir au lapin dans une préparation particulière.
Alors, effectivement, c'est le mot, l'expression donc a été lancée, c'est-à-dire que les deux patronnes ont été énucléées, et à un moment donné, il a été dit, notamment par une des sœurs Papin, que finalement, quand elle préparait le lapin pour le repas du dimanche, elle faisait exactement la même chose. Voilà. Alors ça change un petit peu donc la nature aussi du crime et du geste, mais malgré tout, c'est ce qui a beaucoup impressionné le docteur Chartier, qui a mené donc une enquête, qui a lu toute la littérature médico-légale de 1906 jusqu'à 1933.
C'est pour ça qu'il a mis 3 mois.
Voilà. Et là-dessus, donc, ce qu'il avait trouvé, c'est que finalement, l'énucléation donc à main nue existait, mais dans des hôpitaux psychiatriques, et en fait, c'était des gestes qui avaient plutôt été commis contre soi-même. Ouais. Donc là, d'abord, étonnement. Ensuite, deuxième interrogation, c'est le fait de détruire le visage. Pourquoi le visage était réduit en bouillant sanglante? Donc là, évidemment, donc interrogation, pas de réponse ferme. Alors, on peut évidemment donc imaginer que c'était pour ne pas que le regard ou même le visage énuclé puisse éventuellement donc juger le geste. Et puis, il y a encore deux autres éléments qu'il a pris en considération, sans rentrer dans le détail, mais c'est que le fait que les membres inférieurs et les membres supérieurs avaient été striés un petit peu comme du pain que l'on met à cuire.
Oui. Voilà.
Et donc, sans doute à l'aide de deux couteaux et d'un marteau, puisque le premier couteau, la lame était un petit peu inutile.
C'est ce qu'on faisait dans la fameuse préparation des lapins aussi.
Voilà.
C'est pour ça que je faisais allusion à ces blessures-là.
Et puis, la dernière grande catégorie de blessures, c'est les blessures inaudibles. Mm-hmm. C'est le fait qu'il y a une mise en scène morbide, c'est-à-dire que les photos du crime telles qu'elles existent sont des photos qui ont été recomposées. C'est-à-dire que les deux patronnes ont les jupes relevées. Mmh. Les parties intimes sont mises à nu, comme on dit pudiquement. Mmh. Et donc, ces parties sont aussi donc ensanglantées. Alors, sans qu'on puisse livrer, évidemment, donc, de conclusions trop rapides sur cette mise en scène macabre, le sang de la fille peut-être posé sur les parties plus intimes de la mère. Ouais. Je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, cet aspect-là pose de véritables questions. Ouais. Et cet élément-là n'a pas été traité plus tardivement au moment du procès.
Est-ce qu'il y a eu une mise en scène? C'est terrible, c'est qu'on peut pas se reporter à leur déclaration. En fait, parce que, on l'a dit tout à l'heure, les déclarations, c'est surtout Christine qui parle. Quand on interroge Léa, même séparément, elle dit « Tout ce que vous a dit ma sœur, c'est comme ça que ça s'est passé, et je suis totalement aussi responsable qu'elle, et voilà. » Et elle répète les formules, finalement, les phrases même hein, de sa sœur. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'un autre côté, quand Christine, parce qu'on lui dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, elle dit, mais rien ne permet de le vérifier, elle dit, quand j'ai dit à ma patronne que le fer était cassé et que j'avais pas pu repasser, elle est montée, elle m'a bousculé, j'ai compris qu'elle allait me sauter dessus, et à ce moment-là, en gros, je me suis défendu, quoi. Hein? Donc, voilà, bon. Alors, ces arguments, alors l'état de... À l'époque, quand même, ça va très vite, hein, entre les faits criminels et le procès. Le procès arrive assez vite.
Oui, là, le procès arrive assez vite. Il est d'ailleurs, pas expéditif, mais en tout cas très rapide, hein,
une journée et demie,
ouais. Voilà, pour aller...
C'est pas grand-chose, hein. Ouais. Alors, ce procès a lieu. Comment dire, vous avez retrouvé des comptes rendus ou des de l'époque. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans le déroulement de ce procès?
Alors, ce qui a sans doute frappé le plus les contemporains, c'est que là, on a tous les grands chroniqueurs judiciaires qui font le déplacement. Les chroniqueurs judiciaires les plus célèbres de cette époque-là, ce sont les frères Tarot. Mmh. Leur chronique est véritablement suivie par les grands intellectuels de l'époque. Ouais. Alors, Jacques Lacan prendra connaissance de l'affaire à partir de ces chroniques-là.
Oui, parce qu'il a écrit ce texte, dont on reparlera très rapidement, sans jamais rencontrer les sœurs Papin. Hein. C'est vraiment les articles de ces journalistes.
Voilà, tout à fait, à partir des comptes rendus, et puis plus tard, Jean-Paul Sartre, lorsqu'il rédigera donc une nouvelle inspirée comme point de départ des sœurs Papin, et bien évidemment donc aura pris connaissance aussi dans le même périodique, était Paris Soir, et à l'époque, c'est le plus grand périodique français, c'est 1,5 million d'exemplaires, donc une chronique dans ce journal-là, évidemment, donc ça touche un public considérable.
Oui, alors le contenu, puisqu'on fait allusion, ça fait deux fois qu'on fait allusion à l'article de Lacan, Jacques Lacan dit, mais enfin, derrière cette histoire-là, il y a quelque chose qui est banal en psychiatrie, qu'on constate depuis très longtemps, c'est ce qu'il appelle le délire à deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux personnes, mais il n'y en a qu'une qui tue, quoi. Évidemment, je veux pas faire de la psychiatrie de comptoir, parce que ni vous, ni moi, nous sommes psychiatres, mais comment on peut présenter ce que dit... Comme ça, non
oui, ce que dit Lacan, voilà. Lacan avait soutenu sa thèse sur la paranoïa, donc l'année d'avant, en 31 plus exactement. Oui. En 32, il y a un autre ouvrage qui est publié publié, c'est le livre d'Henri Claude, qui est une sorte de synthèse, et le manuel de psychiatrie légale. Oui. Et dans ce manuel, le crime de paranoïaque est également présenté. Oui. Alors évidemment, ces affirmations sont à mettre en relation directement avec le procès.
Il y a mot paranoïa n'est absolument pas prononcé. Non,
le mot n'est jamais dit. Oui. Et lors du procès, vous avez à la fois donc les experts de l'accusation, qu'on peut appeler comme ça, donc qui se sont à charge contre les sœurs Papin, et la défense a sollicité le docteur Logre, qui est à ce moment-là donc un psychiatre de renom, qui est présent dans toutes les grandes affaires, notamment l'année précédente, au moment de l'assassinat du président Doumer, c'est un des protagonistes de cette affaire, et c'est lui qui va surprendre l'auditoire, et qui va convaincre aussi donc Jacques Lacan de cette hypothèse-là. Il va dire non, le vrai coupable, je le connais, alors évidemment, tout l'auditoire est suspendu à ses lèvres, mais qui est ce coupable? Il dit, ce coupable, c'est un troisième personnage, et ce troisième personnage, c'est la réunion des deux sœurs. Ouais. Et pour lui, c'est le crime à deux.
Elle ne faisait qu'un au moment du... Ouais. C'est extraordinaire, hein, quand même. Il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé ensemble, et que vous abordez évidemment dans le livre, parce que vous dites que peut-être une des clés de compréhension, c'est aussi l'histoire de ces deux jeunes femmes, leur famille, d'où elles viennent, de leur relation avec leur mère, qui semble avoir été toujours très complexe, hein, depuis le début.
Oui, c'est un environnement familial donc assez compliqué, puisque si on jette un regard un petit peu rétrospectif, on n'a pas convoqué le père au procès. Ça, c'est un témoignage qui manque.
Ouais. Il a toujours été très absent.
Toujours absent. Mais du coup, il joue aussi donc un rôle majeur, parce qu'il y a une connotation sexuelle manifeste dans l'histoire des sœurs Papin. Ouais.
Il y a l'homosexualité aussi des deux sœurs, enfin les relations incestueuses dont on pourra parler.
Ça a été abordé, mais là, il est sans doute... l'hypothèse la plus raisonnable, c'est que les deux sœurs étaient très proches, sans forcément qu'elles aient, comme on disait pudiquement donc à l'époque, un commerce charnel, puisque une des hypothèses qui a été avancée, c'est le fait que elles étaient en plein ébat lorsque leurs patrons sont revenus, et finalement, c'est pour ne pas être dénoncées qu'elles sont passées à l'acte. Yeah. Alors évidemment, la thèse est très séduisante, elle a la simplicité pour elles, et quand on regarde le calendrier, la manière dont les jours ordinaires se déroulaient, c'est une thèse qui ne marche pas, puisque à une demi-heure près, les patronnes rentraient
tout le temps. Elles
savaient
que les patronnes rentraient, parce qu'il a été dit qu'elles étaient persuadées que leurs patronnes ne rentraient pas ce jour-là, qu'elles seraient seules, mais en fait, non. Non. Vous confirmez, là.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes penché
régulièrement, une demi-heure près, avec retard, ou parfois un détour à la pâtisserie, ce qui était le cas puisque des gâteaux ont été retrouvés sur la scène de crime, les patronnes rentraient toujours à peu près à la même heure.
Ouais. Enfin, après, plus tard, quand elles seront incarcérées, condamnées, incarcérées, à un moment, je pense que c'est avant le procès, où elles sont dans la même cellule, et il y a une crise, on vient les séparer, et Christine dit quand même, rendez-moi mon mari, quoi. Frappé, l'expression m'a frappé. On fait une pause et ensuite on revient quand même sur l'histoire familiale pour ce que je vous ai interrompu. Certes, le père est absent, mais le rôle de la mère quand même mérite qu'on s'y penche un peu. Et ce qui s'est passé avec la mère, donc avant bien sûr, mais pendant le procès et après.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
On retrouve l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Frédéric Chauveau, historien spécialiste d'histoire contemporaine, auteur du livre L'effroyable crime des sœurs Papin chez Larousse. Un livre vraiment dont je vous recommande vivement la lecture, parce que vous avez découpé l'affaire, si j'ose dire, pour ne rien laisser dans l'ombre. Oui, non, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, Frédéric Chauveau. Mais c'est absolument passionnant parce que vous présentez, comme dans tous les bons romans policiers, évidemment, les personnages et les principaux acteurs du drame, mais ensuite vous questionnez vraiment l'histoire par tous les angles dont on a évidemment évoqué un certain nombre depuis le début de l'émission. Alors, la mère, qu'est-ce qu'on peut encore en dire pour avoir une clé supplémentaire de compréhension? Le père absent, vous l'avez dit, et la mère, par rapport à ses filles, elle prend l'argent qu'elle ramène au foyer quand même, hein, on les envoie travailler. Hein,
oui, c'est une mère relativement absente, hein, qui ne les a pas élevées. C'est une tante qui a élevé Christine. Ouais. Lorsque les deux sœurs sont placées comme domestiques, elle fait une ponction, si je peux dire, sur les gages.
Qui fait que c'est un peu une libération pour les sœurs d'être engagées chez les Lancelin. Parce qu'elles arrêtent de payer, hein, je crois.
Elles arrêtent de payer, mais pas tout de suite. Voilà, parce que du coup, il y a une rupture qui date de 29, de 26 à 29. Oui. À ce moment-là, la mère reçoit une ponction, et à partir de là, c'est une rupture.
C'est ça.
Et de 29 à 31, il n'y a quasiment pas de relation entre la mère et les filles. Mmh. Simplement, à un moment donné, donc, la mère envoie deux lettres datées de 1931 à ces deux filles, leur donnant un certain nombre de conseils sur la vie spirituelle, sur le fait qu'on peut peut-être consulter un spirit, sur le fait qu'il faut aussi se méfier des hommes, voilà. Donc ces deux lettres ont été conservées quand même par les deux sœurs, elles n'ont pas été détruites, oui. Et elles sont retrouvées au moment de la perquisition, derrière un meuble, exactement derrière un miroir qui permettait évidemment de se regarder donc le matin. Oui. Et il y a aussi donc une autre énigme ou un drame dans le drame, c'est le fait que les sœurs Papin, contrairement à la légende, ou en tout cas à ce qui est le plus connu, n'étaient pas seules. Il y avait également une troisième sœur, Emilia,
oui,
qui était donc la sœur aînée. Oui. Et là, évidemment, quand je parlais d'énigme dans l'énigme, c'est le fait que la sœur aînée a été très proche dans l'enfance avec Christine. Les liens se sont ensuite distendus. Mm-hmm. Et dans le cadre des parents, les parents ont divorcé, c'est assez rare à l'époque. Il y a une procédure qui est introduite en 1911. Le divorce est prononcé en 1913. Et dans les bruits qui courent et dans les rumeurs à ce moment-là qui circulent dans la ville, on soupçonne le père d'avoir eu des gestes déplacés, voire même un lien incestueux donc avec la fille aînée. D'accord. Donc évidemment, on comprend que ça puisse peser évidemment sur la trajectoire familiale, ouais, et personnelle des deux sœurs.
Alors cela dit, bon, ce n'est pas n'adoucira pas le jugement du jury. Vous l'avez dit, un jour et demi de procès. Je ne sais plus, j'avais noté quelque part la durée du délibéré, mais je crois que c'est une extrêmement
minutes.
Rapide. Comment
40 minutes.
40 minutes, voilà. 40 minutes pour décider j'ai sous les yeux là pour décider que Christine Papin est condamnée à avoir la tête tranchée sur la place du Mans, mais il y aura un décret du président Albert Lebrun le 22 janvier 34 qui va commuer cette peine en travaux forcés à perpétuité. Quant à la Léa, donc elle est condamnée quand même à une peine de 10 ans hein, de prison et 20 ans d'interdiction de séjour. Alors, rapidement, que sont-elles devenues? En fait, Christine Papin, qui, comme sa sœur, avait été reconnue parfaitement responsable de ses actes, on n'avait pas parlé de paranoïa, de schizophrénie, de quoi que ce soit, elle va mourir après avoir été internée.
Voilà, tout à fait. Elles sont envoyées à ce moment-là donc à Rennes, qui accueille la prison pour femmes. Et très rapidement, donc, Christine donne un certain nombre de signes, disons, qu'on peut qualifier d'étrangeté, même pour les gardiens. Donc, elle est transférée, elle est accueillie à l'asile d'aliénés. Et à ce moment-là, elle va même recevoir sa sœur en lui disant, bon, cette jeune fille est très gentille, elle est très polie avec moi. Elle reconnaît pas sa propre sœur.
Oui. Voilà.
Et puis, donc, subitement, donc, en 34, là, elle décède. Alors, Léa a une destinée qui reste encore un petit peu énigmatique.
Hein, alors, on va parler de Léa dans deux secondes, mais d'abord encore un mot sur Christine, parce qu'on parlait hors micro du fait que personne n'ait prononcé ce mot paranoïa, ni schizophrénie, ni quoi que ce soit. On va retrouver, vous en faites mention dans votre livre, une parole de Christine pour expliquer un peu ses relations ou sa méfiance par rapport à sa patronne, et elle parle d'un bijou maléfique.
Oui, les propos sont très brefs, mais elle dit qu'elle a été un petit peu donc envoûtée par un bijou donc qu'on lui aurait offert, et c'est une thèse qui sera publiée un petit peu plus tard l'année suivante dans un ouvrage sur les crimes obscurs, et donc oui. À ce moment-là, on imagine effectivement une sorte de conditionnement psychologique, oui, ou spirituel de Christine, oui, dans cette thèse.
Voilà, et donc elle va mourir, en fait, elle va cesser de s'alimenter, elle va mourir, je crois, en 37, hein, il me voilà. Semble, quelque chose comme ça. Alors maintenant, Léa, parce que Léa a vécu très très longtemps après l'affaire.
Oui, Léa est en fait... le père de Christine meurt en 1950, la mère en 1957, mais en fait, Léa va décéder donc en 2001, et au moment de retrouver sa
Pardonnez-moi, elle sort de prison pendant la guerre, hein, je crois.
Elle sort de prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ouais, donc, elle est interdite de séjour au Mans. Elle a une trajectoire qui reste encore donc un petit peu imprécise, puisque des témoignages attesteraient le fait qu'elle ait finalement donc pu trouver à un moment donné un emploi donc au Mans, et donc elle, évidemment, elle serait devenue à ce moment-là couturière ou domestique, ouais, bon, mais ça reste assez donc aléatoire, ouais. Donc simplement, elle meurt en 2001, on retrouve sa trace, mais à ce moment-là, elle est malade, elle peut quasiment pas parler, il y a un journaliste qui la découvre pratiquement sur son lit de mort, qui voudrait enfin percer le mystère du crime, et donc à ce moment-là, c'est plus ou moins des borborismes ou des paroles inaudibles, ouais, donc finalement, on n'en sait pas davantage.
Voilà, donc ce journaliste ou cette journaliste, je ne sais plus, on a cherché sa trace, on l'a pas trouvée, peut-être que il ou elle est écoute cette émission, on aimerait bien savoir qui a pu rencontrer, qui a pu être le dernier journaliste à rencontrer Léa Papin. Et en tout cas, on est sûr d'une chose, elle est décédée en 2001 dans une maison de retraite. Donc,
tout à fait.
Mais on n'en sait pas plus, quoi. Il nous reste une minute et demie avant la fin de cette émission, Frédéric Chauveau. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette enquête? Parce que vous écrivez des articles sur des affaires criminelles, mais là, vous avez consacré un livre à l'affaire.
C'est deux choses pour être bref. C'est à la fois, donc, bien sûr, le geste extraordinaire, qui est sans équivalent quand même dans les annales du crime 19e, 20e. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait aussi que c'est un crime qui a suscité, donc, finalement, une floraison d'interprétations. Et que, un certain nombre de contemporains, et ça, c'est un message porteur un petit peu d'humanisme, en disant que finalement, les êtres humains, quel que soit leur crime, ne peuvent pas être réduits à leurs actes et qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin.
Oui, il y a eu cette pièce de théâtre de Jean Genet, Les Bonnes. Alors là, c'est tout à fait une autre façon de lire l'histoire, c'est de dire c'est la guerre des classes, quoi. C'est également les mauvais traitements, c'est un crime de bonne, mais qui finalement, se venge de.
Tout à fait, la pièce est jouée pour la première fois en 1947. Il y a une version longue et une version courte qui sera publiée
avec Louis Jouvet,
aux États-Unis.
Ouais.
Et puis donc, simplement, dans la pièce de Jean Genet, les bonnes changent de rôle. C'est Solange et Claire, les deux bonnes. Ouais. Et puis celle qui est l'aînée, finalement, donc, va finalement écouter sa cadette. Mmh. Voilà, il y a une sorte d'inversion de celui qui a, ou de celle qui a l'autorité.
Voilà, et Jean Genet n'ira jusqu'au bout s'être inspiré de l'affaire des sœurs Papin. Mais c'est une autre histoire. L'émission est maintenant terminée. Je rappelle simplement le livre, donc Frédéric Chauveau, L'effroyable crime des sœurs Papin, si vous voulez aller plus loin, c'est aux éditions Larousse.